Pulsar.
On est là pour ça sur Radio Pulsar.
Voilà, 95.9, vous êtes bien sûr, on est là pour ça, mais on avait envie de changer de générique.
Ah pardon, fallait pas le dire.
Comment, qu'est-ce que ça dit?
Non, j'ai pas dit qu'on l'avait oublié.
Non, on l'a pas oublié, non, on avait envie de changer, voilà.
Voilà, tout ça c'est parce que ce soir on est que deux.
Voilà, en plus.
Voilà. Ah non, fallait pas le dire. Ah.
Fallait pas le dire, je voulais imiter tous les copains.
Bah oui, moi aussi.
Bonjour, ce soir, Anthony. Bonjour, Anthony.
Ah, oh, Anthony, tu es là, moi aussi, Isabelle.
Bon, bah non, en fait, il y a que Hélène et Thomas ce soir. Et puis voilà, quoi. Et puis ce soir, on va faire une spéciale. Comment on dit? Une spéciale. Fanzine.
Ouais, une spéciale retour d'Angoulême avec des trucs plein les poches.
Voilà, ouais.
Avec des livres que vous ne trouverez pas dans les grandes surfaces culturelles.
Que vous aurez du mal à trouver en librairie aussi.
Mais que, en cherchant bien, peut-être.
Ouais, voilà. Quelle chance bien. Quand même.
Heureusement qu'on en parle à la radio.
Et
alors ?
Qu'est-ce que j'ai fait?
Mais alors, New Order,
c'est un peu brusque quand même, hein. Je suis désolé.
Tout ça, on parle de choses et d'autres, et puis on écoute New Order, et puis...
Excuse-moi, j'ai pas encore super l'habitude du studio.
N'importe quoi.
Bon, en fait, je voulais lire la suite. En fait, on m'a demandé la suite de ce que j'avais commencé à lire la semaine dernière, c'est très gentil. Donc, vous vous rappelez que c'était un extrait d'un petit livre qui s'appelle « Reportage pas vraiment raté » de GB, chez le Dilettante. Et donc, notre héros se retrouvait dans l'espace, dans une cabine téléphonique, après avoir composé le 765 4 3 2 1 0 sur le cadran de son téléphone. Et il était en train de se demander qu'est-ce que je vais faire. Il me reste une pièce, qui je vais appeler sur Terre pour pouvoir me déloger de cette situation périlleuse. Et sa dernière phrase avant que j'interrompe, c'était « Où êtes-vous, Michel Strogoff ?» 17h05, j'entends un coup sec frapper à la vitre derrière moi. Ma transpiration, jusque-là abondante, se tarit. Ma sueur se glace. Je tourne avec peine la tête avant que mon cou ne soit complètement solidifié. L'homme gris et raide est là, tenant la porte ouverte, les pieds sur le rebord de la cabine. Cinglant, il me jette. « Mon petit monsieur, ça fait 3 minutes que je suis pendu à cette poignée de porte. » Attendant patiemment que vous ayez fini de papoter avec vos petites amies. Je sais que la courtoisie n'étouffe pas les gens de votre âge, c'est pourquoi, sans autre forme, je vous prie de me céder la place. À notre époque, si on est bon, on vous prend pour une poire. Je sais ce que vous avez pensé tout à l'heure, en me passant sous le nez d'un air goguenard. J'aime autant vous dire, mon petit bonhomme, que vous vous êtes trompé d'adresse. Vous m'exprimez, pour m'exprimer comme la nouvelle vague, vous êtes tombé sur un bec. Mais monsieur, pas de monsieur, filez, vous m'entendez? Il tend le cou vers moi. Vous m'entendez? Tout contre mon visage, il braque le sien. Sa mâchoire est crispée, sa narine frémissante, son sourcil droit, haut levé, et le gauche, menaçant, souligne un regard flamboyant. Michel Strogoff. Je lui demande son numéro de téléphone, et c'est alors que je reconnais mon erreur. Son masque devient hideux. Il m'attrape par le col. Je n'ai jamais pu supporter cela. Nous nous battons. Maintenant, nous survolons le Congo. Nous pouvons apercevoir le vert presque noir de la forêt, puis tout de suite à bâbord l'océan Indien. Pas d'incident notable en ce qui concerne le vol lui-même. Tout est ok. L'exiguïté de la cabine rend le combat assez confus. Une polka d'ours dans un aquarium. Enfin, la première timidité passée, nous nous efforçons de nous envoyer des coups de poing dans la figure. Je lui place calmement le mien sur l'œil, puis, utilisant le peu de course dont je dispose, j'effectue avec mon bras un mouvement de piston. Un instant démoralisé, il cherche une réplique. Il trouve. Un grand coup de griffe me laboure le visage. J'ai le tort de faire un pas en arrière en hurlant de douleur. La porte dans mon dos me refuse son appui et je bascule dans le vide. 17h08, c'est la descente. Je n'ai pas suffisamment étudié mon point de chute. Où vais-je atterrir? J'aperçois bien la map monde, là-bas, toute petite, mais la lutte m'a un peu brouillé la vue. Je ne distingue rien de précis. Enfin, je suis rassuré. La France plus la Corse foncent vers moi. Et voici les jolies couleurs de la carte cycliste de l'île de France, puis la toile d'araignée du plan détaillé du 12e arrondissement. 17h10, boulevard Poniatowski. À quelques pas de moi, 4 personnes en file indienne semblent attendre quelque chose. Devant la première de la file, un espace noir et carré fume sur le pavé. Je le regarde aussi longtemps qu'il m'est possible par la vitre arrière du taxi qui m'emporte, lorsque la voiture vire à l'extrémité du boulevard et n'ont pas bougé. 17h30, le journal. Au rédacteur en chef qui me demande comment je vais, je réponds « bien ». À la secrétaire qui s'informe de ce que je désire, je réponds « rien ». Le téléphone sonne, je décroche, la voix est lointaine et comme essoufflée. « Écoutez, écoutez-moi, m'entendez-vous? Pour l'amour de Dieu, ne raccrochez pas. Je m'adresse à votre journal parce que, tout bien réfléchi, vous êtes les seuls à pouvoir prendre au sérieux une aventure aussi folle. Vous êtes nouvelle vague, alors vous me croirez. Promettez-moi de me croire. » Qui est à l'appareil. « Mon nom importe peu. D'ailleurs, je ne suis pas très bien sûr de m'en souvenir. La dernière personne que j'ai rencontrée m'a appelé Michel Strogoff. C'est une histoire fantastique, inouïe. » Justement, son histoire, je la connais. Alors j'ai raccroché, je travaille moi. Certains lecteurs s'étonneront peut-être de ce que je n'ai fait nulle place en ce récit aux manifestations des phénomènes physiques sur lesquels s'étendent en général les cosmonautes volontaires. Premièrement, je ne suis pas un cosmonaute volontaire. Ensuite, les effets d'apesanteur, puisque c'est d'eux surtout qu'il s'agit, ne sont pas aussi spectaculaires qu'on se l'imagine. D'ailleurs, l'impression générale que je garde de cette aventure, c'est l'absence totale de surprise. Et si, en définitive, je vous conseille de former sur le cadran d'une cabine publique le numéro 7654 3210, c'est avant tout pour vous éviter une pénible déception, de la même manière que je vous engagerai à rester chez vous plutôt que d'aller voir un film insipide. Quant à Michel Strogoff, je suppose qu'il tourne toujours. Comme il n'a plus de pièces, il ne peut pas raconter son histoire. Après tout, il n'avait qu'à être poli.
Bien fait pour lui.
Donc c'était la suite de la nouvelle 7654 3210, issue de reportage pas vraiment raté de GB aux éditions Le Dilettante. Alors, c'était quoi ça, Hélène, dis donc?
Alors, c'est, la chanson s'appelle Kane Ren Ren, et c'est chanté par Oki. C'est japonais. On ne saurait pas forcément que c'est japonais, mais c'est un morceau que j'aime beaucoup, qui fait partie d'une compile éditée par Sarava, qui vient de sortir. Et la compile s'appelle, je m'entraîne, Kusamakura Fresh, je crois. Mais la typo est tellement bizarre qu'on arrive à peine à lire. Kusamakura Fresh.
Ouais. C'est ça. Tu dis Fresh, toi?
Non.
Bah, c'est du japonais, là, après, non?
Ah, t'es sûr? Je sais pas, ouais, c'est une typo qui fait un peu japonisante, mais...
Bah ouais, mais... bon, je sais pas.
C'est peut-être Kusamakura, tout court.
Voilà.
Et en tout cas, c'est une compile qui est faite par Maya Barou. Maya Barou, comme Pierre Barou. Je pense
donc
que
c'est la femme de Benjamin, peut-être.
Je pense que ça serait plutôt... Ah, la femme de Benjamin,
ou
peut-être.
La fille de Pierre Barou.
Je sais pas. dit merci à Benjamin Barou, c'est peut-être son mari ou c'est peut-être son frère.
Son frère.
Parce que dans les remerciements, elle remercie aussi Atsuko et Pierre Barou. Donc, va savoir.
Bon.
En tout cas, on ne sait pas. On sait qu'elle est musicienne, qu'elle n'est pas bien vieille. À un moment, on a la chance de la voir en photo sur un livret. Et le principe de cette compile chez Sarava, ce sont des musiques de l'archipel. Donc, Maya Barou étant elle-même flûtiste et chanteuse, on comprend qu'elle a passé pas mal de temps à aller au Japon et à se balader du nord au sud de l'archipel. Parce que l'archipel du Japon, c'est, enfin, c'est peut-être un petit pays, mais il y a énormément d'îles quand même. Et donc ça va de Hokkaido à Amami, Hokkaido au nord, Amami au sud. Mmh. Et Maya Barou s'est amusée à se balader, à rencontrer des musiciens assez divers et à faire cette compilation qui, qui retrace et ses rencontres et les gens qu'elle a aimé croiser. Et elle dit elle-même, la plupart des Japonais ne s'imaginent pas forcément qu'il y a des musiques comme ça au Japon. C'est-à-dire que c'est souvent des croisements de musique traditionnelle et d'expérimentation plus actuelle. Et elle tient elle-même, Maya Barou, à présenter dans le CD chacun des groupes, donc elle fait une petite bio, elle explique le sens de la chanson. Je vais vous lire pour cette chanson-là, parce que vraiment, je trouve qu'elle a une plume assez rigolote. Donc, Kane Ren Ren, c'est ce qu'on vient d'écouter, c'est une chanson traditionnelle Ainu.
Donc, les Ainu, de Hokkaido.
Voilà. Attends, t'es calé, toi, en japonais.
Ah ouais,
hein. Wow,
donc, c'était la peuplade qui habitait Hokkaido avant que les habitants actuels du Japon arrivent, en fait.
Qui sont
arrivés à pied par la Chine et par la Corée, en fait.
Pas tout à fait à pied, parce qu'il y a de la merde.
Et voilà.
D'accord. Bah, effectivement, voilà, c'est donc Ainu. Ils se mettent en cercle, chantent et dansent non-stop pour la cérémonie de l'ours. Et donc, l'interprète, c'est Oki. Et ton Cori à la programmation. Et la petite bio de Oki, c'est « Oki ignore qu'il a des origines Ainu. » Jusqu'au jour où il tombe sur une anthologie des arts plastiques d'Hokkaido, à l'école des beaux-arts de Tokyo, et découvre les œuvres d'un sculpteur qui ne lui est pas tout à fait étranger. Très vite, il prend l'avion pour Hokkaido et part à la rencontre de cet artiste, guidé par son instinct. Quand la porte de la maison s'ouvre, le sculpteur lui dit tout simplement « Ah, te voilà, mon fils !» C'est bel et bien son père qui le reçoit et qu'il revoit pour la première fois depuis ses 4 ans. Après avoir travaillé en tant que directeur artistique dans les productions des films aux États-Unis, Oki revient s'installer à Hokkaido pour s'imprégner de sa culture et surtout de sa musique qui le passionne. Oki se met à fabriquer le tonkori, un instrument Ainu à cordes dont il n'existe pratiquement plus de fabricants ni de pratiquants. Il trouve son propre son en jouant des morceaux traditionnels et des compositions, intégrant musique électronique, africaine, reggae et dub. Actuellement, il tourne avec son Ainu Dub Band. Voilà pour l'histoire.
Wow.
C'est rigolo. Pas mal, hein? Et il faut que j'arrête de dire rigolo.
Si, on va quand même passer à un truc rigolo, c'est Mouton.
Oui.
Oui, donc on va récapituler quand même. On était au Festival d'Angoulême, donc il y a une semaine et demie.
Mm-hmm.
Et nous, ce qu'on aime bien faire à Angoulême, c'est aller voir ce qui se passe du côté des fanzines, parce que c'est là que la création est la plus vivace.
Et la plus originale.
Et
là, on a le petit.
Et c'est là qu'en plus, c'est là le seul intérêt quasiment du Festival d'Angoulême, puisque tout le reste, on peut le trouver. En librairie.
Ouais, après il y a aussi des expos maintenant.
Par les dédicaces, tout ça, bon, on s'en fout un peu. Alors Mouton, c'est un petit fanzine qu'a sorti notre ami Rémi Ducas pour à l'occasion du festival d'Angoulême.
Ah, il faut dire aussi
on a déjà signalé le blog de Rémi, je crois. Je sais plus. Oh là là, c'est un peu. Cherchez Rémi Ducas sur le net. Il a un blog qui est très bien.
RémiDucasComics.canalblog.com.
Voilà. Et donc ça, c'est des pages qui sont issues de son blog, en fait.
Et qu'il a compilées. Mmh. Oui, mais qu'est-ce qu'il raconte dans son blog? Parce que les gens qui font un blog, il y en a quand même une tripotée.
C'est vrai.
Donc, on pourrait dire, petit 1, que Rémi Ducas est drôle. Bon, quand on... Voilà. Mais c'est petit 2, que Rémi Ducas est prof. Et que prof, bah, justement, c'est pas toujours drôle. Et notamment prof d'art plastique dans un collège avec, avec des élèves de collège qui sont pas forcément... pas forcément hyper motivés ou simplement qui s'occupent plus de leur portable que des grandes œuvres de la peinture. Et donc Rémi Lucas, avec sa crinière de mouton, d'où le titre, c'est pas lui qui l'a trouvé, hein, bien sûr, c'est les élèves, raconte toutes ces petites anecdotes qu'il fait bon raconter le soir quand on rentre chez soi pour pouvoir en rire.
Parce que sur le moment, des fois, c'est pas marrant.
Des fois, vraiment, on n'aimerait vraiment pas être à sa place. Ouais. Ouais, je tombe sur une scène où il est en face c'est pas une élève, c'est la sœur d'un élève, la grande sœur, quoi, qui est censée être un petit peu, la grande sœur qui fait gaffe aux gamins. Et qui vient de dire, je suis embêtée, vous avez confisqué un téléphone à mon frère en cours, et en fait, c'était pas le sien, c'était le mien. Bah oui, mais enfin bon, il s'en servait en cours, c'est pour ça que je l'ai pris, de toute façon, j'ai filé à la principale et vous le récupérez auprès de vos parents. Ah, auprès des parents. Ah, ça passe mal là déjà. Et puis après, il explique qu'il faut pas faire ça et tout. Et puis il y a le petit gamin qui fait voilà, n'importe quoi. Puis l'autre, elle lui tape du coude. Mais ouais, t'es fou, c'est un prof, faut pas dire ça. Puis à un moment, il commence à faire fifi. Puis finalement, ils rigolent tous les deux. Ils se foutent trop de sa gueule. Et là, on s'est dit mais mince, c'est vrai quoi, l'autorité. Comme c'est dur.
Ouais, c'est vrai.
Enfin bon, voilà, c'est une histoire parmi tant d'autres.
C'est des petites anecdotes qu'il raconte comme ça, donc. Sur son expérience de prof, c'est vrai qu'au début, ça devait être un peu dur pour lui. Maintenant, ça va un peu mieux. Même des fois, il dit oh là là, faut que je gueule moins fort après mes élèves, c'est pas possible. Des fois, il s'énerve vraiment. Et moi, j'aime bien. Enfin, c'est marrant parce qu'on avait parlé de jours de classe de Big Ben. Je crois que c'est à cette occasion-là qu'on avait parlé de Rémi déjà.
Peut-être, oui.
Ouais. Donc, il y avait un bouquin qui est sorti en librairie qui s'appelait Jours de classe de Big Ben où il raconte son quotidien de prof de français. Rémi, lui, il est prof d'art plastique. D'ailleurs, il y a des choses très drôles à voir sur son blog qui sont pas dans ce petit recueil.
Les réponses des élèves.
Il passe des diapos aux élèves de tableaux assez connus et donc les élèves doivent lui dire qu'est-ce que c'est ces tableaux, en fait. Et donc des fois, il y a une page où carrément il a mis les tableaux et les réponses de certains élèves et c'est assez marrant.
Ouais, non, c'est vraiment super drôle. Ouais. Et même là, bon, c'est vrai que c'est un truc auquel on s'attend un petit peu, le côté ils sont rigolos, ils pensent à des choses sur des tableaux auxquelles on pense pas, ou des fois au contraire ils y pensent alors qu'on se dirait pas du tout. Et il cite aussi un des gamins qui est hyper cinéphile et qui lui parle toujours de films pas possibles pendant l'école et c'est un petit peu.
Mais monsieur, vous avez vu le dernier James Bond?
Ouais, mais ça, le dernier James Bond, on peut s'y attendre.
On peut voir aussi sur le blog de Rémi qu'il est très cinéphile, il parle de certains films qu'il a vu, des vieux films des années 50, enfin lui il aime bien tout ça, et là il tombe sur un élève qui est
qui lui dame le pion, quoi.
C'est un élève qui a plus une culture bizarrement des années 70, Inspecteur Harry, L'aventure du Poséidon, donc des films que lui, Rémi, voyait quand il était môme à la télé, et que le gamin lui ressort comme ça, et ça fait bizarre, quoi, parce que le gamin il a 20 ans de différence avec lui, quoi, et c'est vrai que c'est bizarre. Il doit avoir un grand frère ou un papa cinéphile,
un oncle, je crois, c'est le tonton. Enfin voilà, c'est Mouton, et en plus ça coûte pas cher.
Voilà.
1 euro, un petit fanzine de Rémi Lucas. Enfin,
donc disponible au Feu Rouge?
À Poitiers, au Feu Rouge, et sinon je pense en écrivant à Rémi Lucas via son blog, remilucacomics.canalblog.com.
Ouais. Un peu dans le même esprit.
Un peu, ouais. Formol.
Formol, de Simon Hureau. Alors ce qui est intéressant, c'est que Simon Hureau, c'est un auteur déjà un petit peu reconnu. Enfin, il est assez jeune aussi, mais il est plus jeune que Rémi, mais il a déjà fait pas mal de livres. Chez Ego Comics notamment.
Et Futuropolis, peut-être les derniers, Delcourt.
Ouais.
Mais il a commencé surtout chez Ego Comics. Enfin non, il a commencé à l'Institut Pacôme.
Voilà. Donc c'est un des piliers de l'Institut Pacôme. Et donc l'Institut Pacôme revient à ses premières amours, parce qu'ils étaient passés par des bouquins avec belles couvertures sérigraphiées, etc. Et là, on sait pas trop pourquoi, ils font une petite collection fanzine comme ça, photocopiée, assez bien faite. Donc, Simon en a fait un, il y a aussi Jean-Von Nias qui en a fait un, et puis Sylvain Moisy aussi, donc les trois
fondateurs pliés,
les toujours. Fondateurs de l'Institut Pacôme. Et donc Simon, donc il assigne Professeur Urax, fait le tome 1 de Formol, où il parle de sa vie à Saint-Germain-en-Laye. Donc il se trouve que Simon a vécu à Saint-Germain-en-Laye quelques années. Et puis c'est pas triste.
Enfin, surtout que Saint-Germain-en-Laye, on s'y attend pas trop. Enfin, il explique au début, genre, oh là là, j'ai honte, j'ai quitté Paris, je suis en banlieue, ouille. Et il est pas au courant que Saint-Germain-en-Laye, mais c'est trop la classe, franchement. C'est des vrais bourgeois, pas forcément dans son milieu ni dans le nôtre. Mais c'est quand même une vraie ville bourgeoise où il fait bon vivre, où il y a des belles voitures et tout le monde s'habille bien dans la rue. Ouais.
Ça. Alors ce que j'aime bien là-dedans, moi, c'est que ça prend la forme de déambulation dans la ville. Il y a Simon qui déambule à la ville et qui croise des gens. En plus, c'est le jour des encombrants, donc il récupère plein de trucs parce qu'à Saint-Germain-en-Laye, comme il y a beaucoup de gens assez aisés, les poubelles sont aussi assez aisées. Il dit aussi même que même les clodos, enfin les SDF, on dit, les clodos sont assez aisés. Enfin, ils ont
ils peuvent faire n'importe quoi.
Voilà, c'est ça.
Bah, en gros,
ils commencent à avoir des goûts un petit peu raffinés, tout ça. Hein.
Franchement.
Voilà.
Si c'est pas un scandale.
Et alors, moi, ce que j'ai bien aimé là-dedans, c'est que je trouve que alors Simon Hureau, il a dans ses livres qu'il a fait, notamment les livres sur le Cambodge chez Ego Comics, il adopte une forme finalement assez classique qui peut faire penser à Tintin en particulier parce qu'il fait un peu les bulles de la même façon, mais bon avec des cases, des bulles, enfin bon, c'est très bien raconté tout ça. Et là, il sort de ça, donc c'est une forme beaucoup plus lâchée, enfin pas beaucoup plus lâchée, mais en tout cas c'est une forme un peu plus libre, sans cases déjà, avec le texte.
Des annotations à droite à gauche.
Peut-être plus de texte, avec des planches un petit peu, donc il y a une planche avec toutes les types de bourgeoises de Saint-Germain-en-Laye, comment ils sont coiffés, tout ça, maquillés, habillés. Et je trouve que même son dessin, même il gagne en autant dans ses bouquins édités chez Ego Comics, il a des fois ça c'est un petit peu laborieux son dessin, autant là il se lâche. Et je trouve qu'il gagne vachement en dynamisme, en fraîcheur. Je sais pas.
Oui, ça donne.
Ça m'a c'est ça qui m'a le plus étonné de ce petit fanzine. En fait.
Oui, moi aussi. Puis c'est son côté. Peut-être on rejoint un peu GB là-dedans, même si les reportages de GB sont beaucoup plus absurdes et délirants. Mais ça part du quotidien. Ouais. Et on sent que c'est quelque chose qu'il a fait en se sentant assez libre et en se disant, ah, quand même, j'habite à Saint-Germain-en-Laye. Évidemment que quand on habite là, on observe les gens qui sont pas dans le même milieu que soi. Mmh. Évidemment qu'on en compile des petites notes, surtout quand on est dessinateur, qu'on aime bien faire les poubelles, qu'on ramasse les animaux morts ou des choses comme ça. Et il raconte aussi quelques personnes qui croisent dans son environnement, pas vraiment des copains parce que c'est un peu des relations superficielles de gens qu'on croise dans la rue, mais qui sont aussi un petit peu à part de la bonne bourgeoisie bien lisse de Saint-Germain. Il y a les clodos dont tu parlais, enfin les SDF pardon. Et puis la revendication voilà, sur ce qui se passe. Et puis il y a aussi une nana comment elle s'appelle déjà, qui fait avec lui la fin du marché et qui lui fait une sélection, qui commande ce qu'il trouve en fruits et légumes. Enfin, voilà, on voit qu'il y a une espèce de petite parcelle de liberté là-dedans, et puis en même temps cet esprit critique qui est finalement aussi une critique de classe, quoi. Parce que franchement, tout ce qu'il dit, c'est.
Ouais, mais moi c'est peut-être là qui me gêne un petit peu là-dedans, c'est que je sais pas trop où il situe lui, en fait. C'est-à-dire que, à force d'en balancer autant sur les bourges que sur les clodos, je me suis dit à un moment, bon, bah d'accord, mais et toi, mon grand, enfin, tu vois, il y a un côté, je sais pas trop, c'est peut-être un peu bateau ce que je dis là, j'en sais rien trop.
C'est vrai,
mais
c'est un peu ce qu'on attend.
Je me suis un peu dit ça, enfin, ouais, franchement, en lisant, je me suis dit, ouais, ok, c'est bien d'envoyer sur tout le monde, mais comment est-ce que toi, tu te situes par rapport à ça? Ça, on le sent peut-être moins dans son petit truc, mais bon, en même temps, on sait que c'est un numéro 1, donc peut-être que c'est une mise en place avant d'aborder quelque chose d'un peu plus profond, je sais pas trop.
Je crois qu'il a pas trop envie de parler de lui, bien qu'il se dessine en train de rencontrer des
gens.
Bah
oui, mais tu vois, c'est encore toujours le dessinateur un petit peu omnipotent qui se place au milieu du truc et
qui juge
tout le monde. C'est pas trop si c'est c'est surtout la question du point de vue en fait là, donc imaginez, c'est-à-dire de quel point de vue il se place lui. Bon, ok, dessinateur machin, mais qu'est-ce que tu vois, je sais pas,
un truc où il se défie un
petit peu. En même temps, en le disant, je me dis, est-ce que c'est la peine de se poser la question, mais c'est que vraiment en le lisant je me suis dit ça, quoi.
Moi, je pense que ça dit assez que quand on habite à Saint-Germain-en-Laye et qu'on n'a pas vraiment choisi, on n'est pas à sa place, quoi.
Ouais.
On est réduit à un rôle d'observateur et on regarde des choses et qu'on veut pas complètement condamner en bloc, mais qu'en même temps on dit voilà, c'est pas mon truc.
Non, mais disons que j'ai l'impression d'avoir lu des fois des bandes dessinées ou des fanzines de ce type-là où par exemple Rémi, c'est un peu différent parce que Rémi lui il parle de son métier et donc vraiment il est au jeu et il parle aussi de ses impressions, etc. Même si c'est sur le mode humoristique, mais Simon il est Il reste vachement en retrait. Il s'implique pas vraiment en fait. Mmh. Tu vois, c'est ça. C'est qu'il reste toujours une espèce de comme Tintin, quoi. Si tu veux. Enfin, je veux pas que je fasse trop de références à RG non plus.
Professeur Urac, c'est un Tintin.
Mais non, mais c'est le personnage neutre à travers lequel tout passe, quoi. Si tu veux.
C'est
donc,
ça.
Bon. En même temps, c'est bon. Après, c'est un exercice de style. Et,
c'est peut-être sa vision du reportage.
Je trouve le. On a un petit bruit là, c'est normal. T'as un petit bruit.
Non, je sais pas.
On a. En même temps, on a un bel aperçu de Saint-Germain-en-Laye. Et puis moi, j'espère que ça va donner autre chose après, quoi.
Oui.
C'est un numéro 1.
Espérons un Formol 2. Donc là, c'était le bouquet à
vidule. C'est bien parti pour.
Bah, j'espère. En tout cas, je suis très, très contente de voir qu'à l'Institut Pacôme, le format comics et la périodicité régulière reparaît, parce que c'est une belle preuve de dynamisme.
Ouais. Donc, et puis en plus, ouais, moi, je suis vraiment convaincu par le dessin. Là, je trouve qu'il a, trouvé quelque chose, quoi. Mm.
C'est pas cher, c'est pas
et
mal.
Toi, tu voulais me causer de Camille que moi je n'ai pas lu.
Ouais, Camille, que je le prenne dans mes mains. Un petit comics, alors aussi sorti à l'occasion du Festival d'Angoulême. On a quand même, on critique le festival, mais n'empêche que l'occasion. Festival...
C'est vrai qu'on peut critiquer le côté très commercial du Festival d'Angoulême. N'empêche que c'est aussi l'occasion. Il y a plein de jeunes auteurs qui en profitent pour faire des fanzines.
C'est un peu le truc de faire son nouveau machin pour Angoulême aussi.
C'est vrai.
Hein, tout le monde s'amène avec.
C'est un stimulant.
Tout à fait. Et donc, Fafé a fait un petit comics, tout à fait soigné. Je me demande même si c'est pas de l'imprimerie.
Bah, c'est en deux couleurs.
En bichromie. Est-ce que c'est de la photocopie couleur, peut-être? Elles font 7 euros, donc ouais, c'est peut-être photocopie couleur. En tout cas, donc, ça s'appelle Camille. Et ce sont des petites histoires muettes, des histoires de filles. Et qui sont métaphoriques, parce qu'on voit la Camille en question, qui est une jeune fille qui se tire un petit cœur de son, qui s'entaille le ventre pour en tirer son cœur, qui va faire des volutes et des fils elle s'en met la moitié dedans. Et c'est autant de métaphores sur des états de sentiments amoureux ou d'amitié. Je sais pas spécialement.
Et sa Camille, elle ressemble un peu à comme elle se dessine elle aussi.
Oui, aussi.
Alors, je précise un petit peu que Fafé fait partie des éditions Gouinges. C'est une des éditrices. Et donc, elle a édité déjà quelques petits bouquins dans ce cadre-là. Mmh. Notamment Le Monde des Messieurs. Je sais plus trop.
Encore une histoire de BD minimaliste où elle dessinait là avec des carrés, des triangles, des espèces de ronds, et je crois que c'était aussi en partie scénarisé par Big Ben, fondateur et éditeur aux éditions Gouinges, dont on vient de parler de livres aussi. Oui. Jour de classe. Encore des auteurs qui sont dessinateurs, qui sont éditeurs, pardon. Bref, dans Camille, Fafé se représente comme elle se représente maintenant aussi sur son blog. Je crois que c'est Madame Fa, son blog, mais je sais plus à quel.
Ouais, chercher sur internet, ouais, Madame
voilà,
Fa.
Madame Fa. Et pourtant, c'est pas spécialement autobiographique, parce qu'on n'a pas beaucoup de détails. C'est vraiment dans le style du dessin d'état d'âme. Et dans ce style-là, j'avoue que ça m'a fait penser aussi à d'autres auteurs, notamment Alice Lorenzi, qui elle a un dessin beaucoup moins simple que Fafé, parce que Fafé est dans un trait un peu naïf, entre naïf et pop, je sais pas comment dire. Et là, avec plus de volute. Alors que Alice Lorenzi, elle est carrément dans du lichen ou des algues ou je ne sais quel.
Dans un style plus même, moyenâgeux même.
Voilà. Moyenâgeux, on pense à Lucas Cranach quand on voit ses bandes dessinées à Alice Lorenzi. Et pourtant, les histoires sont les mêmes. C'est-à-dire, c'est aussi des histoires de cœur qui sortent de corps, de sentiments très ténus et en même temps extrêmement cruels parfois, extrêmement forts. Camille, c'est ça, quoi. C'est tout mignon et en même temps, ça dit des choses. Enfin, on comprend qu'il y a de la douleur ou au contraire de l'exaltation, donc en peu de mots. Et c'est aussi un espèce de, comment dire, de travail ou de contrainte que s'est donné une auteure, comment elle s'appelle, Karine Bernadou, qui a fait La Femme toute nue aux éditions Sarbacane, et où c'est aussi des histoires de femmes toutes nues, comme Camille qui est toute nue, qui métaphoriquement, en général en une page ou deux, raconte une petite chose qui révèle un sentiment, quoi. C'est assez fort, je sais pas, c'est assez trois titres qui me semblent assez proches, enfin trois auteurs femmes qui traitent de ce thème-là. Et Camille de Fafé, c'est une belle, je trouve qu'elle se renouvelle bien avec ce.
Et donc moi je suis pas trop fan de son dessin, mais bon, je trouve que graphiquement il y a des inventions, c'est assez.
Elle utilise
un peu étrange,
de trame, des matières aussi, des bouts de papier froissés, enfin ouais. Pas mal du tout. Et c'est pas édité par Gouinges, c'est auto-édition.
C'est auto-édité.
Fafé, Camille.
Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size. Got your feet just like your flies. Look out, there's goes the Spider-Man. There's goes the Spider-Man. There's goes the Spider-Man. There's goes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud. He's got radioactive blood. Candy swing from a fridge. Take a look over at LA there. Just go with the Spider-Man. 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 In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, they arrive just in time. Spider-Man, Spider-Man, funny neighborhood Spider-Man, wealth and fame is ignored, action that is real to him. Life is a great big anger, whenever there's a hanger. You'll find a spider. Ladies and gentlemen, Rico Serrato, you're all there.
Pour ça.
95.9
FM à Poitiers. On est là pour ça. Et là, c'était Spider-Man.
C'était Spider-Man par Dionysos. Rigolo.
Bon, c'est pas mal. Ouais.
Pas mal. Bon. Donc, on continue sur les fanzines avec la science infuse de Jean Bourguignon.
Ça, celui-là, on l'a pas trouvé à Angoulême, en fait.
Ah.
C'est de la triche. C'est de la triche, mais c'est une publication que j'aime vraiment beaucoup. La science infuse, c'est donc Jean Bourguignon qui est auteur notamment aux éditions Gringe, mais qui a aussi fait un poulpe, l'appendixite je crois, adapté en bande dessinée aux éditions Sub-Pieds sous terre. Enfin bref, Jean Bourguignon fait pas mal de livres, et en fait il est assez écolo comme gars. Il a des préoccupations, il s'intéresse à la politique, à l'écologie, dans la vie de tous les jours, comme ça. Il n'en fait pas du tout un étendard, mais c'est des questions qui l'intéressent. Et comme il aime bien raconter des BD, eh bien, il a raconté des trucs en BD. Raconter ce qui lui arrive. Il se raconte en bande dessinée, et dans sa vie de tous les jours, il y a des questions qui touchent à l'écologie. Et qu'il a fatalement envie de partager. Donc, eh bien, allez hop, encore un qui fait un petit comics, toujours au même format, parce que tous les comics dont on a parlé.
Toutes les publications dont on vous a parlé sont au format A5.
A5, ça veut dire moitié d'une feuille standard.
Moitié A4, ouais.
14,5 par 10. Non.
Alors, moi, ce que j'aime bien avec Bourguignon, c'est que il y a peu de personnes qui font ça actuellement en bande dessinée, d'investir le champ politique. Enfin, de parler de politique en bande dessinée. Bon, il y a forcément les gens de Charlie Hebdo. Bon, ça, c'est un peu. Évident, mais.
Mais ils font pas des récits, ils font du dessin de presse.
Ouais, voilà, c'est plus. C'est
ou des reportages.
Dessin de presse, il y a quand même des choses en bande dessinée, finalement. Mais. Mais bon, en tout cas, Bourguignon, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il le fait. Il le fait complètement en bande dessinée et d'une manière très comment dire, il se base sur son quotidien en fait, et son quotidien, c'est ça en fait, son quotidien lui pose question au niveau écologique en particulier, parce que c'est une de ses grandes préoccupations, mais plus largement au niveau politique effectivement.
Là par exemple, ce Holidays in the Sun que on a amené pour l'occasion, c'est le 5e numéro de la Science Infuse. Il raconte ses vacances, donc Jean Bourguignon il est belge, et là il va voir des copains à Carpentras, donc en France. Et il commence par regarder le ventilo au plafond, il dit, parce qu'il fait hyper chaud à Carpentras. Et les gens trouvent qu'il fait frais, mais pour Jean Bourguignon, il fait hyper chaud. Il dit, oh, un ventilo, c'est bien ça, c'est mieux que l'air conditionné, parce que c'est un gros truc à pales qui tourne électrique et tout. 28 degrés en soirée, ils trouvent ça frais. Ces gens du sud me paraissent bien mieux préparés que nous, pauvres nordiques, au réchauffement climatique. Et là, paf, c'est parti sur le réchauffement climatique. Il va se demander un peu, enfin, rappeler les causes, les conséquences probables, le manque d'eau. Et là, il fait intervenir des acteurs, notamment un vieux à béret qui semble sorti du film Soleil Vert, qui pédale et qui est un peu une image du futur. Et...
Ah oui, c'est ça qui est intéressant aussi avec Jean Bourguignon, c'est qu'il y a souvent des références au moins cinéphiliques, parfois littéraires, souvent à la presse aussi. Il met des extraits de presse, c'est vachement vivant, enfin il y a une forme vachement vivante en fait. Il avait déjà fait ça pour son mois de, je sais plus, la série Le Mois 2 chez Gringe aussi,
ouais.
qui était pareil, assez ouais, vivante, basée sur son vécu, sur son quotidien comme ça, qui était vachement bien. Et voilà.
Moi, ouais, ce que j'aime bien, c'est qu'il se raconte en suivant vraiment les réflexes de la pensée, des réflexions voilà. En train de se faire. Et donc souvent, c'est comme quand on pense tout seul dans sa tête, en voiture ou quoi, on fait les questions, les réponses et on se contredit tout le temps. Donc lui, il crée des petits personnages pour lui faire cette contradiction-là ou apporter ce côté savant. Par exemple, soit une coupure de journal qui répond à des questions que lui s'est posées, soit un personnage un peu savant, soit des discussions avec des amis. Mais dans tous les cas, c'est vraiment ouais, assez dynamique, un peu délirant parfois et... Et bien voilà, c'est pas quelqu'un qui donne des leçons, c'est quelqu'un qui pose des questions, mais elles sont bien. Et en plus, il diffuse donc ce fanzine de façon, pas de façon militante, de façon libre.
En fait, comment on peut l'obtenir, ce truc?
Eh bien, il faut contacter Jean Bourguignon. Et pour être abonné à La Science Infuse, il faut lui envoyer en gros le prix des timbres et vaguement de quoi l'imprimer. Ouais. Alors, pour contacter Jean Bourguignon, oh là là, il y a beaucoup trop d'écritures partout. Si, ça y est, j'ai une adresse mail.
Ah.
Alors, donc, 103 rue Vandeschrik, 1090 Bruxelles. Ah, c'est pas un mail. Non, sinon, c'est jbgg@chelo.be, C-H-E-2-L-O.
De toute façon, toutes ces références, on les mettra sur le site onestlaporca.free.fr.
Oh oui, c'est vrai. Vous pouvez toujours écouter nos vieilles émissions. Et nous envoyer des mails.
Et puis voilà, j'en profite pour signaler que Jean Bourguignon était nominé cette année au prix Tournesol à Angoulême pour son petit bouquin Dictature écologiste aux éditions Gringe. Et puis bah bon, il l'a pas eu.
Et
il
n'a
pas eu le prix, c'est dommage.
On se demande ce que fait le jury.
Oui, c'est vrai. Donc moi je faisais partie du jury cette année et bon, ça a été un peu dur de convaincre les gens. Je pense que il y avait beaucoup de personnes politiques, en fait, il y avait notamment un mec qui se présente pour au municipal à Paris pour les Verts. Et je pense qu'ils ont été un peu effrayés par le mot dictature déjà. Et puis, par le contenu était peut-être un peu trop ironique. Et je crois que, enfin, pas non plus préjugé de leur capacité intellectuelle, mais je pense que c'est aussi des gens qui étaient habitués à une bande dessinée peut-être un peu plus classique. Et puis, bon, bah voilà, c'est comme ça. Mais c'est dommage parce que par rapport à tout ce qu'il y avait, par les autres bouquins qu'il y avait, c'était beaucoup de choses qui, pas forcément mauvaises, mais qui étaient des grosses séries chez des gros éditeurs. Donc, qui n'avaient pas forcément besoin d'un prix Tournesol pour vivre leur vie de bouquin à succès. Et c'est dommage, quoi.
Et puis surtout qu'il y avait pas, qui développait pas spécialement, tu disais, le message écologiste.
Celle qui a eu le prix ici, plutôt, pas mal. Ouais. C'est la série Betelgeuse chez Dargo. Bon, mais bon, qui a une série, quoi. Enfin, tu vois, ça fait le 15e tome déjà, donc s'il avait dû l'avoir, il l'aurait eu avant. Et puis bon, bah, c'est un bouquin en 48 pages, ça développe pas grand chose, quoi. Sauf que c'est une science-fiction un petit peu écolo et assez sympathique. Mais bon, voilà, bon, c'était un prix un peu consensuel, quoi. Alors que voilà un auteur, Bourguignon, qui se positionne dans le champ politique et qui parle, quoi, qui réfléchit. Et ça, c'est assez rare en bande dessinée pour qu'on... Enfin, c'est pas qu'on réfléchit pas en bande dessinée,
bêtes,
mais c'est assez rare un auteur. Moi, ça me fait penser... C'est pas la même chose, mais ça me fait penser à Pierre Fournier dans les années 70, qui faisait pas spécialement de la bande dessinée.
Un peu à GB aussi.
GB aussi. Pierre Fournier qui avait fondé La Gueule Ouverte dans les années 70, qui était un vrai écolo, et qui est mort bien, bien jeune.
Bien trop jeune.
Voilà. Un dernier petit fanzine.
Allez, fais du copinage.
En plus,
parle de ton quartier.
Pas format A5, mais bon, j'en parle parce que c'est moi qui l'ai fait avec mes voisins. Ça s'appelle Roche Voisine parce que j'habite rue de la Roche.
Quel jeu de mots fabuleux à ce genre de la rue de la Roche.
Désolé, c'est le numéro 1, mais en fait, c'est le deuxième numéro parce qu'on avait fait un numéro. Non, ouais, attends, c'est le numéro 0, voilà, donc c'est le deuxième numéro. Donc, c'est fait par des gens qui ne sont pas forcément des gens qui dessinent, donc.
Donc c'est rigolo.
Donc c'est rigolo et enfin c'est voilà c'est.
Arrête de dire rigolo.
Oui, faut pas dire rigolo, pardon. Non, ce qui est intéressant avec ce numéro, c'est qu'on a fait aussi un CD et un CD musical. Donc je vais vous passer un extrait et vous allez, c'est fou parce que vous allez forcément reconnaître les chanteuses. Allez, 1, 2, 3.
Donc c'est un sujet assez délicat.
Comment décrire ça?
première rencontre amoureuse. Ouais. Voilà.
Oui, oui, des histoires d'amour adolescente, enfin, ou des débuts d'histoire.
Des histoires d'amour.
Enfin, ou des débuts d'histoire.
C'est pas mal du tout.
Ouais, ouais, ouais.
Ça crée quelque chose de bizarre.
Ouais, ouais, ouais.
Des histoires d'amour.
Comment décrire ça ?
Des histoires d'amour.
Voilà, donc c'est un sujet assez délicat.
Elle s'est mise toute nue, elle s'est mise toute nue, elle s'est mise toute nue.
Moi aussi.
Voilà.
Oui, oui, des histoires d'amour adolescente.
Les petits oiseaux, l'amour, tout ça.
Ouais, ouais, ouais.
Presque tremblant parfois. Et elle s'est mise toute nue, elle s'est mise toute nue.
C'est pas du tout ça, moi je trouve qu'on voit et qu'on ressent, mais c'est plutôt dire que voilà.
Les petits oiseaux, l'amour, tout ça. Ça crée quelque chose de bizarre.
Ouais, ouais, ouais. Donc c'est un sujet assez délicat.
Bah ouais, dommage. Et les petits oiseaux, l'amour, tout ça. C'est pas mal du tout.
Et donc, en gros, là, pour résumer juste un petit peu l'histoire...
Elle s'est mise toute nue, et c'est là que c'est croustillant, parce que... Ouais. Voilà.
Voilà. Voilà.
Radio Pulsar, c'est croustillant ce soir.
Oui, donc c'est le morceau que j'ai fait. Vous devinez tout de suite à partir de quoi je l'ai fait.
Eh ben bravo. On écoute des émissions, on les enregistre et après on nous fait dire n'importe quoi.
Oui, voilà.
Bon, Isabelle, tu n'es pas avec nous ce soir, mais tu es un peu avec nous quand même.
C'était pas vraiment chanté en fait, mais bon.
Et c'était. On parlait de quoi? Parce que moi, c'était Jeffrey Brown dans cette émission-là.
Ah non, non, c'est non, plusieurs non. émissions en fait.
Ah, c'est
ouais, il y a plusieurs émissions. Elle s'est mise toute nue, c'est parce que tu parlais d'une expo à la Maison des Architectes avec une
Alexandra
fille qui
Pouzet.
S'était mise tout nue dans les appartements des gens.
Oui, voilà. C'est vrai.
Et voilà.
C'était ça. On a le temps de parler encore de quelques petits livres ?
On peut les citer au moins, oui.
On peut les citer au moins.
Moins 5, là, vas-y.
Oh, voilà, faut se dépêcher. Bon, c'était vraiment une émission spéciale bande dessinée que personne ne trouve nulle part, sauf en cherchant bien. C'est une émission spéciale, on est content quand on rentre du Festival d'Angoulême de voir que les auteurs se donnent encore les moyens de faire des vrais livres, même si c'est des petits formats.
Ouais, c'est pas vraiment des. Ouais, enfin, pas les moyens de faire des vrais livres, enfin, les moyens de publier leurs trucs comme ils le veulent, quoi.
Oui, voilà, enfin, quand je dis des vrais livres, ça veut dire des trucs qui ont du sens, quoi. Tu vois. Et par exemple, pour parler encore d'un petit livre, Jonathan Larabi est victime de la rue. C'est un petit fanzine de vraiment pas très
ça
long.
Voir, j'ai pas vu.
De Jonathan Larabi qui raconte comment il s'est craché la gueule deux fois en skateboard. Enfin, la première fois, je crois que c'était en vélo, la deuxième fois en skateboard dans un endroit. Et il raconte autant comment ça s'est fait que la réaction des gens autour. Genre juste après, plus ensuite les copains du boulot et puis voilà, les gens autour. Pareil, le côté vaguement expiatoire de raconter ses hauts faits à tout le monde. Et puis, moi, je sais pas, ça permet de se rappeler un petit peu que la solidarité, ça existe. Parce que quand quelqu'un se crache méchamment la gueule avec un skate, bah, y a plein de gens autour qui, quand même, viennent voir ce qui se passe et filer des coups de main et sont gentils. Et des gens très différents. Et il en a fait un joli petit livre avec la photo de l'endroit fatidique. Où, à quelques années d'intervalle, voilà, en couverture. Tu peux me dire la date parce que toi,
alors, 30 décembre 2004, 14 juillet 2007.
Voilà.
Alors, lui, il fait du skate le 14 juillet. Tiens.
Ça, ouais, bah, tiens, il a été bien fini. Voilà. Donc, un petit livre pour parler de ça. Et sinon, avant qu'on récapitule.
Ouais, vas-y.
Un aux éditions Groinge, qui n'est donc pas un fanzine, qui est un livre qui est diffusé en librairie et fait en imprimerie, de Gilles Rochier, dont j'aime décidément beaucoup les dessins récents. Et ce livre s'appelle Dunk, Chicken and Blood. À part ça, c'est quand même écrit en français. Et ça se passe dans une cité, banlieue parisienne, on suppose, puisqu'on sait, nous, que Gilles Rochier, il habite en banlieue parisienne et qu'il parle souvent de sa banlieue. Et l'histoire, c'est tout simplement de celle d'un gars avec ses cheveux courts et sa casquette. On dirait presque Pips, le personnage Pips, du dessinateur Pips. Et qui, voilà, qui se balade, il siffle un peu les gazelles, et puis à un moment, il s'arrête devant le shop Sneakers. Et là, il fait « Putain, terrible, trop la classe !» Et puis, c'est un magasin de chaussures, et il rentre, il dit « Bonjour, monsieur. Je voudrais le prix de la paire de Dunk, là. » Et c'est, en fait, c'est des Nike Dunks. Je crois que c'est un modèle de Nike. Le top, ah ouais, ah, il y a que 7 modèles sur Paname, exclus chez nous, héhé. Durcam, c'est le modèle Dunk Record 2008, introuvable, 280 €. Et ouais, héhé, trop la classe. Joe Star a déjà acheté 2 paires pour lui et sa mère, direct. Et là, on voit un gros plan sur la godasse et on comprend que 280 €, c'est vraiment trop cher. Mais voilà, on a le schéma de la quête, l'objet du désir, qui deviendra peut-être objet du délit. Mais on va voir ce jeune gars se faire embaucher chez un boucher pour gagner de la paie, sa paye. Pour
d'où le chicken du titre.
Exactement. Et d'où le blood à la fin. Et on va voir comment il en arrive à jouer du couteau pour avoir l'objet de son désir. Ah, mais je raconte pas tout, hein, je raconte pas tout. Et donc, oui, c'est une chouette histoire de la banlieue. Bon, une histoire, c'est une fable d'humour noir, mais comment dire, Gilles Rocher, il est fortiche parce qu'il connaît très bien ce milieu-là vu qu'il y habite. Et qu'en même temps, il fait pas du tout dans le misérabilisme ni dans le portrait style de ce qu'on peut voir des banlieues à la téloche, quoi. C'est juste le vocabulaire, les expressions qui sont là, un peu comme dans les films d'Abdelatif Kechiche. Et c'est naturel, quoi. On est dedans, et c'est bien. Enfin, sauf que.
J'aime bien les émissions, comme ça, on fait des ponts avec les autres émissions, tu vois, j'aime bien, tu vois.
Ouais, donc la graine et le mulet, l'Abdelatif Kechiche,
tout le monde. La graine et le mulet, tout ça, ouais. Ah, c'est bien, j'aime bien.
Pas d'autocongratulation. À l'antenne, enfin, Thomas, parce qu'on écrit les deux.
Bon, allez, ça suffit. On récapitule maintenant.
Ouais, après, on écoutera de la musique.
Ouais. Donc, on a parlé. Donc, on a passé le premier, c'était Crystal de New Order. Ensuite,
Non, on a passé Samara Balouf avant.
Ah oui, Samara Balouf, c'est bon. Parce qu'on avait envie de le passer.
Voilà.
Et donc, moi, j'ai lu un morceau de reportage pas vraiment raté de GB. Donc, ensuite, on a passé un extrait du CD. Comment il s'appelle déjà ?
La compile japonaise parue chez Sarava.
Kusamakura, chez Sarava. C'est le volume 1 en plus, ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Waouh, chouette.
Et on extra encore un morceau juste à la fin.
Ensuite, on a fait une spéciale fanzine Retour d'Angoulême avec Mouton de Rémi Lucas. Formol numéro 1 de Simon Hureau, professeur Urax.
À l'Institut Pacôme.
Et Camille de Fafé. Donc les trois sont disponibles, je crois, au Feu Rouge en particulier.
Oui.
Peut-être à la fanzinothèque. Ensuite, on a passé Spider-Man, donc le générique de la série repris par Dionysos en concert.
Parler de Jean Bourguignon.
Jean Bourguignon, donc la science infuse, qui est un fanzine donc, qui diffuse lui-même. Alors peut-être chercher sur internet, peut-être les coordonnées de Jean
ouais,
Bourguignon.
jbgg@chelo.be, chelo.be, pour le contacter.
Et on a parlé aussi de Dictature écologiste, donc qui n'a pas eu le prix Tournesol cette année, c'est bien dommage.
Hélas.
Et voilà, et donc tu as parlé, toi, de
Jonathan Larrabee, victime de la rue, et de Gilles Rocher, Dunk Chicken and Blood.
Et j'avais parlé, moi, de Roche Voisine numéro 1.
Ah oui, le fanzine de la rue de la Roche, disponible au Feu Rouge avec son CD.
Ah, il est disponible au Feu Rouge, génial.
Ah non, mince, pas encore.
Je sais pas. Bon, allez.
Encore un petit peu de japonais.
Allez.
Allez,
bon, bah à la prochaine, les amis.
Ouais, c'était On est là pour ça sur Radio Pulsar.
95.9, ciao.
Je vais au bureau à cause du surmenage, des vertiges. L'heure du déjeuner aux Champs-Élysées, à la terrasse du café-restaurant, j'ai aperçu une fille. Elle va pas tarder à voler mon cœur. Rendez-vous devant la fontaine d'eau. Elle est mignonne, mais sur ses talons, oh, même sa démarche a certaines des vertiges. En approchant ses lèvres du verre de vin, c'est bon, redit-elle mille fois comme la rose.
Tu sais.
Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal.
Ce message n'est pas diffusé.
Ce message.